présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Le commissaire lui rend sa carte, sa valise, et il sort du commissariat, entouré de deux commissaires. On le fait monter dans une voiture pour aller à l'aéroport. Là, à l'aéroport, lui donne un billet pour Paris. La police reste près de lui jusqu'à ce qu'il entre dans l'avion. L'avion s'est envolé. François dit adieu à l'Amérique. Il se dit que malgré tout, son séjour s'est assez bien passé, et même bien passé. Margaret est amenée chez le commissaire, une fois que François a quitté l'Amérique. Le commissaire, après l'avoir fait asseoir, lui dit « Mademoiselle, pour des raisons qui me sont obligées, même confisquées, je suis obligé, c'est de vous libérer. » Quoi que je sache que votre mère a été lâchement tuée et que vous avez été complice de cette déplorable histoire. Donc, pour des raisons diplomatiques, j'ai libéré M. Ducourt et rendu à la France. Il est libre. Puisqu'il est libre, je suis obligé de vous libérer. Votre mère est considérée comme disparue. Puisqu'on n'a pas de cadavre et plus de coupable, et que l'affaire doit être étouffée pour des raisons diplomatiques. Pas de coupable, pas de complice, donc libre. Mais la fortune de votre mère ne pourra vous être donnée qu'après, disons, quelques années. Et il demande, et François, je pourrais le revoir? Il est interdit de séjour en Amérique, dans notre territoire. Vous pouvez, si vous le désirez, aller le retrouver en France. Mais la France vous laissera-t-elle le revoir? Il sera peut-être arrêté là-bas, est effondré, son amour perdu. Elle retourne chez sa mère. Les domestiques lui font la tête. Le chauffeur lui dit, « Madame, je vous quitte. Je ne peux servir une personne qui a tué ma maîtresse. » Il lui dit, « Mais j'y suis pour rien. Je n'ai rien fait. » Il lui dit, « Si elle n'a pas été retrouvée, c'est qu'elle a été tuée. Et qu'elle n'a pu être tuée que par vous. La bonne aussi la quitte. » Ses amis, curieuses de savoir ce qui s'est passé, surtout que les domestiques ont parlé, et puis François, qu'est-il devenu et est-il coupable? Alors, pour en savoir plus de tout ça, elle reçoit des tas d'appels téléphoniques pour l'inviter à des thés, des soirées. On la traite de ma chérie, ma pauvre.
T'as un très joli rouge à lèvres.
On veut savoir.
Toi de la remarquer.
On s'apitoie sur elle.
T'as arrêté de boire, toi ?
Regarde derrière toi.
Votre mère qui a disparu. Quel drame ! Et votre cher François, qui est si gentil. Dany, qu'il a rencontré à une soirée, lui dit, j'ai appris par une de mes amies qui est dans la police que vous avez votre François était un espèce d'espion français, qu'il était intouchable.
Venez ici.
Un François en 007. Quelle histoire! J'aurais jamais cru ça de lui.
J'ai trouvé une photo.
En plus, quel joli garçon. Les femmes pensent que François est un espion.
Ah, mais c'est la province ici.
Et que...
On finit par s'y faire.
Ça lui donne encore plus...
Mais pas du tout comme ça.
De piquant.
Moi, je suis pas d'ici. Je suis fils d'immigrés.
Qu'on aime encore plus ce pauvre François.
Faut moins de générations pour s'intégrer.
Et encore plus entouré.
Je me demandais
par les journalistes, la télévision.
Je n'avais pas envie de rester là-bas ce soir.
Vous aviez peur.
On veut même qu'elle écrive ses mémoires. Son aventure avec le bel espion, etc.
Madame la comtesse, le baron.
Ça les distrait.
Et
lui permet de voir encore plus de monde et de vivre dans l'univers de François.
Vous êtes devenu
suffisamment
un étranger depuis quelque temps,
pour, voir venir.
Absent, ma chère.
Parce qu'elle continue à recevoir la pension de son père. Pour ce qui est de la fortune de sa mère, un tuteur avec le notaire s'en occupe et l'argent est mis dans un compte spécial. Elle pense souvent à François.
Dites-nous, ma chère,
aimerait
comment
aller
arriver dans la maison en
France. Rejoindre en France. Mais on lui dit qu'il faut mieux
de ma famille
pour cela
lorsque mon père est
que l'affaire.
En nous laissant sans ressources, j'ai été obligée de me remettre à la merci de mon tuteur, le baron.
Endormi, qu'il ne faut pas la réveiller.
Le baron m'a dit que si
à cause de François,
l'élégance, je devais m'asseoir à vos pieds.
Qui risquerait d'aller en prison en France. Elle se dit que la chose va peut-être. Que le temps va peut-être arranger les choses. Depuis son affaire, beaucoup d'hommes, de femmes lui courent après. Les hommes veulent se marier avec elle, mais elle ne veut pas. Elle devient la femme du bel espion français. Espion qui était de l'ambassade de France, etc.
Je ne pense pas avoir une opinion très éclairée à ce sujet.
Une fille, en plus, est pleurée par la disparition de sa mère. On pense que sa mère a disparu parce qu'elle savait des choses.
C'est une fille.
Moi, c'est ce que faisait François.
Et en parler, monsieur.
En France.
C'est intéressant.
Que c'est là.
Ceux qui vivent des aventures ne sont
France qui l'a fait disparaître. L'histoire de Margaret devient une histoire d'amour et d'espionnage. La Warner aimerait en faire un film. Mais elle refuse.
Possible.
Elle est toujours entourée et les gens la plaignent. On la jalouse.
Bonsoir.
Parce qu'elle a eu une aventure avec ce beau Français.
Bonsoir, mademoiselle.
L'avion de François atterrit en France, à l'aéroport Charles de Gaulle. Il s'attend à être arrêté dès son arrivée. Le ministre de la Justice a été prévenu de son départ et de son arrivée. Il se dit que cette histoire qui s'est passée en Amérique et n'a pas été ébruitée en France, etc., etc. Et puis, cela vaudrait peut-être mieux qu'elle ne fasse pas de vagues en France, parce que les journalistes peuvent chercher le passé du jeune homme et aller jusqu'à lui et sa fille. Alors, il décide, c'est que, de le faire dès son arrivée, de laisser partir comme ça, pour éviter des interviews et le braquage sur lui. Il ne faut pas que les projecteurs soient sur le jeune homme. Mais si le jeune homme fait des vagues, on l'abat de suite pour éviter qu'il ne parle. Faut éviter qu'il ne parle. François sort de l'avion et suit les autres passagers pour entrer à l'aéroport. À l'aéroport, il passe la douane sans encombre. Et se retrouve dehors avec sa valise. Il pense qu'il allait être arrêté, et là il se retrouve à Paris libre. Ça le surprend. Et à Paris, oui, ça le surprend. Prend un taxi pour le centre de Paris. Je vois le moment. Vous désirez aller où? François ne sait pas où aller, alors il dit place de l'Étoile. Le chauffeur met en route la voiture. François voit Paris. Le Paris qu'il a connu, délabré, gris, sale, ville qui ressemble à une ville après une guerre. Il trouve les rues petites, étroites. Ce cri lui donne le cafard. Il se met à regretter la Floride. Le chauffeur arrive place de l'Étoile. On s'arrête tout. François lui dit, ici, sera très bien. Et le chauffeur arrête la voiture. François le paye et sort de voiture. Il se retrouve sur le trottoir, un vent froid, le ciel gris. Ne sait que faire. Il décide, c'est d'aller dans un café pour prendre un petit déjeuner. Il en trouve un vers la place de l'Étoile. Il est entré, grand café, salon de thé, décoré 1900, vieil or. Il y a un peu de monde, surtout des vieux. Le serveur vient à lui, habillé d'une veste blanche et d'un pantalon noir, blond, mince, dans les 22 ans. Il lui demande, « Vous désirez, monsieur, un petit déjeuner complet, s'il vous plaît? Veuillez me suivre. » Et il le mène à une table. quart d'heure plus tard, en prenant son petit déjeuner, il se demande ce qu'il va faire. Heureusement qu'il a un peu d'argent de côté. Il pourrait s'y vivre à l'hôtel. Après quoi faire? À Paris ne connaît personne. Christelle, c'est de l'argent, c'est de l'histoire ancienne. Et puis, il va falloir qu'il se trouve du travail. Il faut absolument qu'il réussisse à entrer chez les Francs Blancs, même comme gratte-papier. Après, avec son charme, il réussira à monter. Il a bien rencontré fugitivement Judith, une fille qui travaille là-bas. Peut-être que s'il la retrouvait, elle pourrait l'aider. Mais sera-t-il la rencontrer, la reconnaître? Et elle, est-ce qu'elle le reconnaîtra? C'est Judith comment déjà? Il ne sait plus. Et puis, c'est loin tout ça. Après avoir pris son petit déjeuner, il sort du café. Décide de voir s'il n'y a pas un hôtel quelque part. Il se met en route. Dans une rue adjacente, il trouve un bel hôtel Palace qui est dans un vieil immeuble du 19e de 4 étages. Ce n'est pas très loin de l'Élysée. Il y a, en gros, un homme, cheveux gris, habillé en bleu roi, il lui barre le passage. Vous désirez, monsieur? François lui dit, je cherche un hôtel. Fais-moi savoir si vous avez une chambre. Bien, monsieur, entrez. Et François entre. D'entrée en marbre rose. Va là-bas où se trouve le concierge, en bleu marine lui aussi. Il doit avoir dans les 30 ans. Blond. Lui demande, vous désirez, monsieur? Bonjour, monsieur, je cherche une chambre. Vous avez réservé? Non. Le concierge lui dit. Et vous la voulez, vous en voulez une pour combien de temps? Peut-être 15 jours ou plus, je ne sais pas au juste, ça dépend de mes affaires. Bien, monsieur. Il regarde sur son ordinateur et lui dit, chambre 124, deuxième étage. Elle fait la journée. Est-ce que ça vous va? Oui, merci. Votre carte. Il lui donne sa carte, il la met sur l'écran. Votre pouce, s'il vous plaît. Et il la met. Le concierge lui rend sa carte. Il fait signe à un groupe pour le mener à sa chambre. La chambre est meublée Louis XV, tapisserie double rideau crevette. Fois dans sa chambre, François, fatigué, s'allonge sur son lit. Ça lui fait tout de même drôle de se retrouver en France, à Paris. Il se souvient, la première fois qu'il était venu, il était tout jeune, adolescent. Les premiers jours n'avaient pas été faciles. Il a même couché dans le métro et mangé de drôles de choses. Et l'incendie dans la maison. Une heure plus tard, il a décidé de marcher un peu. Il commence à faire nuit. Les rues et même les Champs-Élysées ne sont pas bien éclairées, juste ce qu'il faut. Il y a peu de monde dans les rues. Les gens se dépêchent. Il marche pendant un long moment et arrive, sans le savoir, devant le siège franc blanc. Grande bâtisse de verre, grand luxe, avec une esplanade sur le devant. Grande esplanade sur le devant, des drapeaux piqués sur l'esplanade, de grands drapeaux sur de grands piquets d'acier, drapeaux de différents pays, et au centre celui de la France blanc, plus haut que les autres. Devant les drapeaux se trouvent de grands jets d'eau comme ceux du nuit du centre de la Part-Dieu à Lyon. Les drapeaux et les jets d'eau devant sont aussi grands en longueur et derrière l'esplanade. Il y a l'entrée du siège, porte à double battant en verre, très grande. Très grande porte avec en haut inscrit en lettres lumineuses rouges franc blanc. Corporation internationale. L'immeuble est tout en verre. Les extrémités sont arrondies. Sur les côtés de l'esplanade et à l'intérieur de l'immeuble, il y a des espaces verts. Les parkings se trouvent sous l'esplanade. Le tout donne un côté très majestueux et immense. François regarde tout ça, monte les 5 marches qui font le tour de l'esplanade et fait le tour de l'esplanade. Le soir tombe, l'immeuble et tous les étages s'éclairent. L'esplanade, ses jets d'eau, les drapeaux, les jardins aussi. Sur le toit de l'immeuble, il y a des projecteurs qui tournent et éclairent le ciel et l'immeuble. Tous les étages sont illuminés de l'intérieur et le hall d'entrée brille. Devant l'entrée se trouvent 4 gardes habillés comme des policiers mais en rouge, la couleur du groupe. L'esplanade est éclairée par le sol, même les jardins, en plus des lampadaires. C'est le plus bel édifice moderne du monde. Il y a 250 étages. Mais ses proportions le rendent pas comme un gratte-ciel, mais comme un immeuble. Parce qu'il a de très belles proportions. Sa largeur va bien avec sa hauteur. François est ébloui par tout ça. Il fait plusieurs fois le tour de l'immeuble en se disant « Je veux faire partie de ce groupe. » C'est là que se décide tout. tout ce que doit se faire dans le monde. Les bâtiments, l'alimentation, la médecine, les eaux, les médicaments, etc., etc. Il voit sortir du siège des personnes. Et parmi ces personnes, une grande femme. Une grande femme rousse, très belle, avec un tailleur rouge. Une femme dans les 65 ans, plus petite, cheveux colorés en blond, tailleur vert et chaussures jaunes. Et un homme grand, mince, cheveux grisonnants, costume gris. Il a l'air sympathique. François le regarde passer. Descend l'esplanade. La femme, en tailleur vert, dit à l'autre femme: je vous laisse, parce que j'ai mon ami qui m'attend ce soir. Et il est pressé parce qu'il va à un match de boxe. L'autre femme lui dit: adieu, mademoiselle Lapin. À demain. Oui, Judith. Elle s'embrasse et la lapin se sauve en courant. L'homme demande à Judith: vous invite pour boire un verre? Elle lui dit: alors juste un verre, parce que je suis pressée. J'ai affaire ce soir. Bien, allons-y. Et François les voit descendre l'esplanade. Ils sont passés devant lui. Avant de descendre, ils ne l'ont même pas vu. Il se dit: je suis invisible, même pas Monsieur Bébé. Il quitte l'esplanade, se met en marche, les mains dans les poches. Les grands boulevards se vident de monde. Passant, il voit un couple de jeunes, trois jeunes filles et deux garçons, qui sont près d'une entrée d'une école qui semble être un lycée privé. Un des jeunes se détache du groupe. Il est de taille moyenne, mince, cheveux mi-longs, épais, châtain, tête ronde, habillé d'un pull gris et d'un pantalon noir de sport, tissu léger. Une chemise dépasse de son pull, elle est blanche. Le jeune garçon a les mains dans les poches. Il leur dit: salut, j'y vais. Une fille blonde, habillée en beige, lui demande: où vas-tu? Il lui dit: je vais faire la pute. Eh oui, j'ai besoin d'argent. Je dois payer mon internat. Les vieux ne me donnent rien. Il s'éloigne les mains dans les poches. François se demande si le jeune a dit ça pour rire ou quoi. Il semble bien être sérieux, mais c'était peut-être pour blaguer comme ça. Il suit le jeune qui est devant lui, qui marche, les mains dans les poches, décontracté. De temps en temps, il passe sa main dans ses cheveux. S'arrête devant un arrêt de bus. François, sans vraiment y penser, s'arrête lui aussi. Le jeune ne fait pas attention à lui. Il attend le dos appuyé au poteau. Le car arrive. Ils entrent. Jules s'assoit. François s'assoit en face de lui. Jules le regarde bien et lui demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» Ça lui dit « Rien. S'il y a quelque chose, tu me prends pour un con, je vois bien que tu me suis. » Ça lui dit « Oui, je l'avoue. Mais je ne sais même pas pourquoi je te suis. Peut-être parce que je t'ai entendu dire que tu allais faire la pute. » Je lui demande, ça t'intéresse? Non, comme ça? J'aimerais savoir si c'est vrai. Tu es drôlement curieux, toi. François lui dit, je l'avoue, oui. Mais c'est peut-être parce que je viens d'arriver à Paris et que je suis seul. Je lui demande, tu viens de quel bled? François lui dit, d'Amérique. Ah, tu es américain? Non, j'en ai l'air. Et moi, j'ai l'air d'une pute? Non. François lui dit, je suis français, mais j'ai vécu quelque temps là-bas et je suis revenu. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Je voulais produire des films. Ah? Oui, mais ça n'a pas marché parce que les filles me couraient après et j'ai eu des temps d'ennui. Je lui dis, moi j'aurais bien aimé que les filles me courent après. François lui dit, c'est pas très drôle. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Viens, je débarque. Je viens juste d'arriver. Je lui demande, tu habites où? Un hôtel, dans une rue, près de la place de l'Étoile. Je m'ennuyais alors, je me suis promené et je t'ai vu. T'es pédé? Non, pas du tout. Mais curieux? Je lui dis. Et est-ce que tu crois que je vais tapiner? Je ne sais pas. Puis je m'en fiche maintenant que je t'ai parlé. Ma curiosité s'est envolée. Je lui dis. Mais moi, tu as éveillé la mienne. Tu t'appelles comment? François Ducourt. Et toi? Moi, Jean-Philippe. Si tu veux, on peut passer la soirée ensemble, parler un peu. Je veux bien, on va où? Je ne sais pas. Il y a un bar qui est pas mal. En bas de Montparnasse. Le car s'y arrête. Tu vas voir. Tu veux bien? Oui. Et le car les mène à Montparnasse. C'est le car 81. Ils sont descendus, Jean-Philippe le mène à un bar. C'est un bar, disons, pour jeunes. Jeunes un télo gauche, caviar, qui passe son temps à discuter et à boire au lieu d'étudier ou de travailler. De toute façon, il s'en fiche, plus tard, avec ou sans diplôme, ils prendront la place de papa, maman. L'établissement est une grande pièce en longueur, sombre, enfumée, meublée 1950, avec des photographies au mur de Sartre, Simone de Beauvoir, Gréco, Luigi, Aragon, Genet, etc., etc., et même Breton et ses esclaves. Le jeune le fait asseoir à une table sur une vieille banquette en cuir rouge usé et sale. Il s'assoit en face de lui. Le serveur, un homme chauve, sans âge, habillé comme les brisequets des années 50, tablier bleu, cheveux gris, comme sa chemise, pantalon gris. Il leur demande, sir. Le jeune dit, deux bières, Léo. Bien. Et il s'éloigne. Le jeune Jean-Philippe dit à François, je viens de temps en temps ici, mais des fois c'est barbant. Ça parle trop de politique. Ils sont anards et se croient le centre du monde. C'est con. Tu peux remarquer, les gens ici sont laids, même les filles. Elles ressemblent à des mecs. François regarde autour de lui. Il y a du monde. C'est vrai que ces jeunes font vieux, mal habillés et tristes. Pourquoi est-ce que les gauchistes sont-ils laids, tristes, se demande François. On leur sert leur bière. Jean-Philippe lui demande, est-ce que tu aimes la bière? François lui répond, oui, pas trop tout de même. D'habitude, je ne bois que des jus de fruits et du bonbon. Jean-Philippe lui dit, c'est pas la boisson des gens d'ici. Ce sont des cons qui croient changer la société en passant leur temps à discuter. Moi j'aime mieux, c'est agir et m'attaquer au système par le système. En fait, si je fais ça aussi pour moi, je l'avoue. Quand on lui demande, tu es gauchiste? Non, tu parles. Moi, la politique, je m'en fiche. Mais je me sers du métier et les exploite. Je me donne à eux, après, je me sers. Alors tu fais la pute? Non, je séduis et je vole la personne. Je n'ai que des clients qui sont des salauds. Je demande, et pourquoi fais-tu ça? Pour vivre. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Philippe lui dit, si tu veux, on fait équipe. Tu séduis un type, tu vas chez lui, et une fois que tu es bien avec lui, vous êtes bon ami, tu fais signe, on le dévalise. Mais ce n'est pas très moral, Jean-Philippe lui dit. Pour que ce le soit, tu choisis un salaud, quelqu'un qui a gagné son argent dans des affaires pas très propres. On fait 50-50. Je t'aide à dévaliser et je revends la chose. D'accord? Seulement, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Je suis une personne que tu connais même pas. Peut-être bien, mais tu fais bien. Et puis, tu attires facilement le bicheton. Moi, c'est pas facile. Seul, je suis seul et puis, je suis interne au lycée. Je suis moins libre que toi. Alors, tu es d'accord? On réfléchit et se dit que de toute façon, il n'a rien à perdre. Et puis, ça lui permettra d'attendre pour rentrer chez Franblanc. Alors il lui dit, oui, je veux bien essayer, mais toi, Tu connais des salopards? Oui, des tas. Mais pas ici. Ceux-là sont trop cons. Ils jouent aux pauvres. Ils n'ont rien chez eux. Enfin, ils n'ont rien. Ils ont compte en banque bien rempli. Mais ils n'ont rien parce qu'ils vivent dans des endroits pourris pour faire les pauvres. Demain, on va dans un autre endroit. Tu verras, je te conduirai. Et je te montrerai une personne. Je quitte, il faut que je rentre. C'est pas mon jour de sortie. Ils terminent leur verre, se lèvent. François lui dit, je te raccompagne. Avant de partir, c'est François qui a payé la consommation. Un matin, François pense à tout ça. Il se dit que ce serait mieux s'il rentrait de suite chez Franblanc. Il traîne toute la journée autour du siège. Les gardes l'observent d'un mauvais œil. Il reconnaît Judith qui rentre et sort. Elle passe devant lui sans faire attention. Il se dit, je suis toujours invisible. Il a le culot, c'est d'entrer dans le restaurant où elle va déjeuner. C'est un grand restaurant qui est dans la rue, un peu plus loin. Façade vert bouteille, intérieur beige et vieillard. Il y a des nappes blanches, des serveurs habillés en noir. Elle est entrée avec cette mademoiselle Lapin, toujours aussi voyante. Porte un tailleur très serré, jaune vif et vert. Judith a un tailleur rouge. François s'est assis à une table en face d'elle. Je ne sais même pas pourquoi il a fait ça. C'est affreusement cher. Il commande une salade verte et un filet de morue. Les deux femmes ne font pas attention à lui. La Lapin parle beaucoup des employés de l'entreprise. François se dit que ce doit être une commère. À un moment, la Lapin le regarde longuement et dit quelque chose à Judith qui lui dit « Oh, arrête, ce n'est rien !» Elle lui dit « Mais regarde tout de même !» Judith se retourne et regarde fugitivement François et dit à la Lapin. Oui, tu as raison. Non, il n'est pas de chez nous. François se dit qu'elles l'ont remarqué, que peut-être que c'est bon pour lui. Thank you.
vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.